actuellement sur le... Ça vous gêne la lumière ou ça va? Ça va? Ok. Bonsoir. Bienvenue à notre soirée. Un peu où on va parler de l'histoire. Comme déjà dans cette semaine à deux reprises, après la soirée sur l'œuvre de Klaus Mann, mardi dernier, aujourd'hui nous allons parler des rapports de Berlin. Des textes qui ont été publiés, qui ont été envoyés diplomatiques par André-François Poncet, qui était ambassadeur de France en Allemagne entre octobre 1931 et novembre 1938, avant d'être ambassadeur ensuite à Rome. Nous avons un grand spécialiste de ces questions sur le podium. Je suis très heureuse d'accueillir. Je ne sais pas si la première fois, avec moi en tout cas, la première fois ici, Jean-Marc Dreyfus, historien, spécialiste de la Shoah et des génocides, et auteur de nombreux ouvrages, dont « Des camps dans Paris », et aussi un titre, c'est-à-dire c'est la lettre d'habilitation qui a été publiée sous le titre « L'impossible réparation, déportés, biens spoliés hors nazis, comptes bloqués, criminels de guerre », un texte, un livre qui est paru chez Flammarion en 2015. Et Jean-Marc Dreyfus a été historien, il a enseigné à Paris 1 d'abord, et récemment à Manchester. Je pense que vous êtes en année sabbatique de l'université, et vous enseignez actuellement à Sciences Po Paris. Un très grand merci d'être venu. Ça, c'était la bonne proposition que Olivier Guèze nous a fait. M'a fait et j'ai tout de suite accepté quand on était en train d'établir le programme en début de l'année. Je suis vraiment contente qu'on ait pu organiser cette soirée, contexte très mouvementé où on parle beaucoup d'actualité, mais je pense justement que ça fait du bien de se pencher sur des thèmes historiques et peut-être apprendre des leçons de l'histoire. Olivier Guèze, je ne l'ai pas encore présenté, mais il est, je pense, déjà bien connu auprès de notre public. Il est écrivain, auteur de nombreux livres, entre autres « Impossible retour », c'est l'histoire des Juifs en Allemagne. Et il est aussi scénariste, il a écrit le scénario pour le film « Fritz Bauer, un héros allemand ». Qui a été d'ailleurs primé, je pense, trois fois. Et en même temps, aussi journaliste, actuellement, beaucoup, vous travaillez beaucoup pour Le Point et vous êtes en train de parcourir l'Europe surtout de l'Est. Je ne sais pas si on le dit toujours ou si on dit plutôt... l'Europe centrale.
Oui, moi j'ai plutôt l'Europe centrale et orientale.
L'Europe centrale.
L'Europe de l'Est, c'est communiste.
Oui. Et comme ça, vous publiez ce qui est intéressant, les rapports de voyage que vous avez là récemment fait pour rentrer un voyage de la Roumanie, de la Hongrie et de Vienne.
Oui.
Et avant, il y avait d'autres étapes. Et ça, c'est un peu une parallèle peut-être à ce que fait Navid Kamani pour Le Spiegel. En tout cas, on a d'abord une conférence, sans doute mini-conférence peut-être de Jean-Marc Dreyfus devant nous, mais je pense que ça sera alterné par des questions et je suis sûre que ça sera une soirée très intéressante pour tout le monde. Merci d'être venu.
Bonsoir. Oui, j'ai particulièrement invité Jean-Marc Dreyfus, d'abord parce que je l'estime comme historien. Ça fait longtemps qu'on se connaît, donc ça c'est le volet amical dont je parlerai un petit peu plus tard et assez rapidement aussi. Jean-Marc, oui, qui est un grand historien de l'Allemagne nazie, qui connaît extrêmement bien l'Allemagne, qui est l'auteur aussi d'un très beau livre qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait « Il m'appelait Piccolo », un compagnon de Primo Levi raconte sur... C'est Jean-Samuel, hein, c'est ça ? Jean, en fait, est le grand-père d'un de nos amis communs, parce qu'en fait, avec Jean-Marc, on se connaît depuis très longtemps, puisque nous sommes tous les deux originaires de Strasbourg, et donc nous nous croisons que depuis que nous sommes enfants, enfin moi, depuis que je suis enfant, et Jean-Marc était déjà adolescent à l'époque. Voilà, donc je suis ravi d'accueillir Jean-Marc ce soir. Et d'autant plus ravi que nous allons parler du dernier livre qu'il a publié à l'automne dernier, donc les rapports de Berlin, que j'ai trouvé absolument passionnant. Moi, j'aime beaucoup l'inciner par les années 30. Et là, on entre véritablement dans les coulisses de la diplomatie, notamment de la diplomatie française en Allemagne. Puisque ces rapports de Berlin, ce sont les rapports que n'a cessé d'envoyer André-François Poncelet, lorsqu'il était ambassadeur de France à Berlin entre 1931, donc avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir jusqu'en fin 1938, donc peu après au lendemain de la nuit de cristal. Donc pendant toutes ces années, André-François Poncelet ne cessera d'envoyer de longs rapports, toutes sortes de télégrammes, lui et ses consuls, au département, comme ils appelaient la maison mère, le Quai d'Orsay. Donc Poncelet fut un observateur privilégié, dramatique et fascinante, la fin de la République de Weimar et les débuts de la dictature hitlérienne. Alors pour commencer, Jean-Marc, j'aimerais que tu nous présentes ce haut diplomate, cet André-François Poncelet. Qui est-il ? Qu'a-t-il fait avant d'arriver à Berlin ? Connaît-il bien l'Allemagne, entre autres ?
Tout d'abord, bonsoir. Merci pour cette invitation. C'est effectivement la première fois que je viens parler ici. Je connais ce bel endroit. Je suis arrivé en étant frappé. Alors d'abord, de voir le nom de François Poncelet sur la stèle qui est à l'entrée. Et deuxièmement, de voir qu'on est en Allemagne en 52. Enfin, cette architecture est magnifique, jusqu'aux chaises dans la salle. Donc il y a quelque chose de tout à fait fascinant, puisque François Poncelet a eu un rôle important également après la guerre. Donc très rapidement, vous présentez ce personnage. C'est un espèce de... comme ça, c'est une espèce de figure tutélaire de la franco-allemande. Je m'approche du micro, c'est mieux, c'est ça ? De la relation franco-allemande. C'est un ambassadeur qui a eu une carrière extraordinaire, parce que d'abord, il est resté très très longtemps. Normalement, la mission d'un ambassadeur, c'est 3 ans, voire 4 ans. Et lui est resté donc, de 31 à 38, et il est parti de Berlin juste avant la nuit de cristal, pour aller à Rome, dit-il, à sa demande, puisqu'il voulait sauver la paix en Europe, et donc il pensait que ce serait Ligny. Donc il aurait pu rester à Berlin, mais il va à Rome. Et il n'est pas, quand il arrive à Berlin, un diplomate de carrière. C'est très important. Alors, comment le qualifier ? Alors d'abord, il vient d'une famille de la grande bourgeoisie parisienne, très, très fortuné, donc il fait partie de cette élite républicaine, il est normalien, il est diplômé de l'école normale supérieure, il est féru de lettres, de littérature française et allemande, fait partie des générations d'ambassadeurs écrivains ou ayant un penchant vers la littérature. On en a beaucoup en France, il y en a encore aujourd'hui, voilà, c'est une tradition. Alors à l'époque, c'était Paul Morand, Paul Claudel, Saint-Jean de Perse, qui était quand même secrétaire général du Quai d'Orsay, qui a eu le prix Nobel de littérature, etc., etc. Mais lui, il est défini pas comme écrivain, mais enfin, on sent que la plume n'est pas la plume du diplomate factuel, et on reparlera de son style, j'imagine. Et auparavant, il a eu une petite carrière politique, il a été député de la Seine en 1924, brièvement sous-ministre de l'industrie, et puis il est journaliste. Il est, on dirait aujourd'hui, lobbyiste. Il était lobbyiste pour le comité des forges. Il est le comité des forges qui était à l'époque, alors honni par la gauche, qui était le représentant officiel du patronat de l'industrie minière et métallurgique de Lorraine. D'ailleurs, de Lorraine. Et il est. Alors déjà, son image est un peu teintée de son passage comme représentant de la grande industrie française. Et puis, il a fait une thèse. Il a étudié en Allemagne avant 14. Il a fait une thèse de doctorat sur Goethe, comme tout le monde, si j'ose dire. Voilà, il est germaniste, il est germanophile, c'est sûr. Il connaît bien la culture, disons, classique. Il est envoyé en 31, je dirais, comme diplomate politique. C'est-à-dire qu'on a un problème, le Quai d'Orsay a un problème avec l'Allemagne, comme souvent. Enfin, voilà, c'est la question allemande des Français depuis très fort longtemps. Et puis, il n'y a personne qui est capable de prendre ce poste, quand même compliqué. Alors, 31, on ne parle pas de l'arrivée certaine des nazis au pouvoir, mais 31, on est en pleine crise économique. Il faut renégocier la dette. Il y a des gros problèmes dans la relation. Il faut quelqu'un de fort et quelqu'un qui s'y connaisse dans les affaires économiques, ce qui est son cas. Il arrive d'ailleurs à Berlin en août 31. Il a une espèce de prémission comme ça. Il va tâter le terrain. Il va voir s'il se fait un truc. Mais il est nommé officiellement au mois d'octobre. Mais il est à Berlin dès en août.
Alors, toi, tu es plutôt un historien vraiment du nazisme. Pourquoi tu t'es intéressé à un diplomate français? Est-ce que ça fait partie d'un projet plus large? Pourquoi penser maintenant?
Alors, pourquoi François Poncet, qui, je dois dire, n'était pas un personnage qui me fascinait particulièrement. Voilà, c'est pas, je l'avoue. Hein. Donc, c'est très bien pour l'historien de ne pas être fasciné par le personnage historique qu'il ou elle veut écrire. En fait, l'origine du livre vient d'un projet allemand qui a été développé au sein de l'université de Hambourg il y a maintenant une dizaine d'années, je crois, j'ai la date, et qui était donc dirigé par Frank Bayer, qui maintenant dirige le centre d'études de la Shoah, qui a été créé au sein de l'Institut für Zeitgeschichte, qui est un vieux collègue, en fait, un historien de la Shoah, lui aussi, en Allemagne. Et la Shoah, l'une des questions dans les Holocaust Studies, j'utilise à dessein l'expression anglaise parce qu'on n'a pas d'équivalent en français, il n'y a pas de champ constitué des études sur l'Holocauste, ni en France ni en Allemagne d'ailleurs. En Allemagne, c'est un problème, en France aussi. Au sein de ces Holocaust Studies, l'une des questions, des grandes questions, c'est qui savait quoi? D'ailleurs, c'est le titre d'un livre. Qui savait quoi sur la persécution des Juifs, la montée des isolements et l'assassinat, les déportations, la destruction. Une grande question, naturellement, est posée de façon morale, souvent, pas toujours de façon très historique. On cherche les sources. Voilà. Et puis, dans les années 80, on s'est beaucoup intéressé aux sources journalistiques, c'est-à-dire ce qu'ont écrit les correspondants de presse basés dans l'Allemagne nazie, et puis ceux qui sont restés après 39, pendant la guerre. Il y avait des correspondants journaux neutres qui sont restés pendant toute la guerre, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qu'ils ont rapporté de la persécution des Juifs et de l'assassinat? Et puis, Frank Bayer a dit, bon, il y a nos deuxièmes catégories de ces étrangers qui sont là pour s'informer et qui sont là pour envoyer dans leur pays d'origine l'information, ce sont les diplomates. Je dirais, pour être sympathique, c'est 50% de leur travail. Que font les diplomates? Voilà. C'est un grand mystère. C'est quoi le métier d'un diplomate? Ben, j'ai toujours, ils s'écrivent entre eux. Ils passent leur temps à s'écrire entre eux. On en reparlera. Ils s'écrivent des télégrammes, des milliers de télégrammes. Et donc, Bayer s'est dit, tiens, on pourrait regarder ce que les diplomates en poste à Berlin dans les années 30 ont écrit sur le national-socialisme. Et donc, il y a un livre commun qu'il a édité, qui a été publié en allemand. J'ai la référence, je peux vous la donner. Hein. qui sont alors fremde Blicke aus das Dritten Reich, Berichte ausländischer Diplomaten über Herrschaft und Gesellschaft in Deutschland, also 1933, 1945, et c'est publié chez Wallstein en 2011. Voilà. Et donc, on était une douzaine et chacun a travaillé sur les archives de sa diplomatie. Donc, il y avait un Japonais, il y a un Belien, Argentin, etc., l'anglais, les États-Unis. Moi, on m'a demandé, comme j'étais déjà un peu familier avec les archives diplomatiques françaises, de regarder ce qu'il y avait dans les archives françaises. Et donc, j'ai écrit ce chapitre. Mais en me confrontant à ce matériau, en répondant aux questions posées par ce projet très sérieux, le résultat est un livre universitaire, mais tout à fait passionnant, je me suis rendu compte de l'extraordinaire qualité de ces rapports de Berlin. Et j'étais un peu frustré, j'ai écrit mes 20 pages, 25 pages, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces dizaines, ces centaines de rapports, et d'où l'idée d'utiliser ce matériau et d'en faire un livre qui est publié en français, mais qui va paraître en allemand en septembre, qui va être publié en allemand.
Alors, peut-être que là, on peut aborder, avant d'entrer vraiment dans le contenu de ces rapports donc, qui s'étendent sur 7 ans, peut-être parler du style, justement. Donc, effectivement, notamment dans l'entre-deux-guerres, une certaine profusion d'extraordinaires écrivains au Quai d'Orsay. Toi, tu rangerais dans quelle catégorie André-François Poncet ?
Alors, écrivain, je ne sais pas. Il est entré à l'Académie française, quand même,
après
la guerre, d'autres aussi, mais bon, il est très 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 prolixe. Alors son style est très reconnaissable. Alors ça c'est très pratique pour l'historien parce qu'à l'époque les rapports diplomatiques, alors pas les télégrammes, ni les dépêches, ni les notes verbales, voilà, tout ça c'est un peu la technique de la documentation que j'ai lue. Les rapports ne sont pas signés. Ils sont signés de l'ambassadeur, mais pas du rédacteur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai eu la chance d'être chargé de mission pendant 2 ans au Quai d'Orsay, donc je vois un peu la cuisine interne. On sait qui écrit, c'est signé. Là, tout ce qui part de Berlin, tous les rapports sont signés de l'ambassadeur. Alors, je sais qu'il n'a pas tout écrit, il les a signés, en particulier des rapports sur l'économie. Il y avait Pierre Arnal qui était l'attaché économique. À l'époque, les rapports sur la défense, ce n'est pas tout François Poncet. Il a peut-être rajouté, réécrit. Donc, c'est très pratique. Mais après quelques semaines dans les archives, je voyais tout de suite si c'était lui ou pas. Alors, le style est un peu daté pour les années 30. Il est très délié, très longue phrase. Il adore les accumulations de déclin. On pourra lire quelques exemples. Voilà. Il n'est pas concis. Ça, c'est sûr.
Dire ça comme ça. Parmi, avant d'entrer vraiment en détail, puisque le livre est organisé par grandes thématiques, parmi les différentes thématiques qui sont classées dans le livre, et donc parmi ces milliers de pages d'archives que tu as pu consulter, finalement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ?
J'ai envie de vous lire un extrait. Bon, après, d'accord. Non, alors, ce qui m'a le plus surpris, alors d'abord, la profusion. Mais au Quai d'Orsay, pour les diplomates encore aujourd'hui, c'est légendaire. Parce qu'on leur demande d'être bref, très bref. Pour les journalistes aussi, on leur demande d'être de plus en plus bref. Mais eux, ils font très bref. Les diplomates français écrivent quelque chose comme 120 000 télégrammes diplomatiques par an. Vous imaginez qui a le temps. Donc cette profusion et la taille des rapports. Les rapports font facilement 15 pages, 20 pages, soigneusement dactylographiés. Ça va jusqu'à 40 pages pour sur les Jeux Olympiques, par exemple. Donc il y a cette liberté qu'il prend. D'ailleurs, il le dit très bien. Je l'ai cité au début du livre. Dans ce livre de 46 dont on reparlera probablement, une correspondance, je l'avoue, fort copieuse, par sa masse, effarait ses destinataires. C'est comme ça qu'il qualifie dans ses mémoires de 46 cette correspondance. Donc, la taille. Il se justifie en disant ce que je vis en Allemagne, ce que je vois en Allemagne, ce que vit l'Allemagne dès 31 est extraordinaire. C'est un moment historique extraordinaire. Donc, déjà, cette lucidité. Ce n'est pas juste les troupes comme il y en a en Roumanie, voilà, comme il y en a eu en 1920, comme il y en a voilà, dans la Commune de Paris. C'est extraordinaire. C'est un nouveau régime. On ne sait pas où ça va aller. Il y a une part de fascination, la fascination de l'horreur, en fait. Et donc, ça, il se justifie. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la grande qualité de certaines descriptions du régime national-socialiste et de la société allemande sous le régime, y compris certaines analyses qui, à mon avis, n'ont pas été, pour certaines, rattrapées avant la société allemande, pas avant Hannah Arendt, pas avant le milieu des années 50, et pour l'économie, je dois dire, pas avant les années 80, pas avant que mes collègues reprennent toute la question de l'économie nazie. C'est remarquable. Donc ça, ça m'a vraiment frappé. Mais il n'a pas tout vu. Il y a des tas de choses qui manquent. En particulier, alors l'exemple que je donne, il est obsédé par la SA. Alors il y a la SA, mais ça, il voit la mobilisation, la terreur, la mobilisation par ses milices. Mais il ne voit pas la SS. C'est curieux. Il ne voit pas le rôle central des camps de concentration, même s'il y a des tas de dépêches sur les camps de concentration. D'ailleurs, il envoie. Il y a une visite officielle pour les diplomates. On leur fait visiter Dachau en 1935. Et alors il n'y va pas lui-même, mais il envoie quelqu'un. Mais alors il y a beaucoup de choses qu'il voit que d'autres n'ont pas vues. Des analyses très pertinentes. Lui aussi, je trouve qu'il est assez fort. L'importance de l'idéologie. Et il y a d'autres choses qu'il ne voit pas. Donc ce n'est pas, voilà, c'est pas le génie parfait qui a tout compris. Après, on peut se poser la question de ce qui fait de ce savoir. Je pense que tu me la poseras.
On va poser la question. Et toi, en tant qu'historien, bon, la Shoah ne commence pas évidemment en 1938, mais toi, en tant qu'historien du nazi, est-ce que tu as découvert des choses dans cette correspondance entre pensées que tu ignorais véritablement sur l'Allemagne des années 30 ?
Alors non, je n'ai pas découvert des choses que j'ignorais. Ce que j'ai découvert, enfin, il y a quand même beaucoup d'anecdotes, quoi. Souvent, c'est très concret. Il y a souvent des histoires qui sont rapportées. Ça aussi, c'est exceptionnel dans son style. C'est pas normalement pas un journaliste. Les diplomates ne sont pas là. Mais lui, il aime les anecdotes, des propos. Il rapporte des rumeurs, par exemple. C'est intéressant. Il rapporte. Je parle trop près, c'est ça. D'abord, il faut me le dire. Il rapporte des rumeurs et donc des tas d'anecdotes en fait qui illustrent ce propos sur l'Allemagne nazie. Après oui bon j'ai appris des choses par exemple sur l'importance des fêtes nordiques voilà à Lübeck. Bon, c'était pas des choses que j'avais lues sur l'importance de la politique de développement de l'est de l'Allemagne du Reich qui était très importante pour les nazis. Ça on l'a peu étudié. Nous, les historiens des nations associées, quand même des détails qui ouvrent des portes vers des thèses ou des articles.
Il y a une question qui moi, m'intéressait, mais il m'est arrivé déjà de... Moi-même, j'ai très vaguement passé un tout petit peu de temps au Quai d'Orsay, mais je me demandais quelles étaient les sources, parce que tu parles d'anecdotes. Il y a effectivement, là, c'est vraiment, je sais quoi, c'est un dixième, un vingtième, un centième de toutes les archives, de tous les rapports, ou un millième, un millionième.
Alors, voilà, donc je veux préciser la taille. Vous verrez quand même que, voilà, que l'exploit, c'est d'avoir fait ce petit livre. Et mon éditrice me dit, pas trop gros, pas trop gros, pas trop gros. Je t'en prie. Il écrivait 1500 rapports par an. 1000 par an. Rapports diplomatiques. Ça ne comprend pas les télégrammes, ça ne comprend pas les dépêches. Et ça ne comprend pas les rapports des consulats, qui étaient nombreux. Donc, et le rapport, je vous dis, c'est au moins 10 pages. Faites le calcul. D'octobre 30. Voilà, faites le calcul. Ce sont des volumes très, très bien. Alors, tout est très bien conservé, on pourra en parler. C'est magnifiquement conservé. Tout est là. Et ce sont des volumes reliés. Donc, vous voyez, là, c'est pas un millième, moins qu'un millième, quoi. Il se répétait quand même souvent. Voilà. Alors, les sources.
Alors, non, il y a les sources. Et dans l'introduction du livre, tu dis qu'en fait, tu as pris un volume sur trois.
Oui. C'est-à-dire, moi-même, en tant que historien, je n'ai pas pu tout lire. Vous imaginez le nombre de volumes que ça fait. Parce que j'ai voulu aussi voir ce qu'il y avait dans les rapports des consulats, les télégrammes, etc. Donc j'ai décidé de lire un volume sur trois, mais également de rechercher des rapports sur certains événements. Par exemple, il faut les Jeux Olympiques, il faut la nuit de cristal. Voilà, c'était un peu arbitraire, j'aurais pu compter. Je veux des rapports sur l'économie, etc. Alors, les sources. C'est compliqué, parce qu'elles ne sont pas citées. Les diplomates, c'est comme les journalistes. Ils ont le droit de ne pas citer leurs sources, contrairement aux historiens. Elles ne sont pas citées, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il est au centre du milieu diplomatique berlinois. Et ça, on l'a montré dans le volume, puisque les gens qui travaillaient sur l'ambassade du Japon, l'ambassade de Suisse, nous disaient que les ambassadeurs étrangers se référaient à François Poncet. Il est au centre de la vie sociale, mondaine, politique, diplomatique à Berlin, de par son entre-gens. Donc il y a déjà les discussions avec un dîner mensuel avec les ambassadeurs. Ensuite, la presse. Alors, la lecture de la presse, les rapports de presse, ça, c'est une innovation du début des années 30 dans la diplomatie française qui est en phase de modernisation. L'utilisation des télégrammes bénéficie de ça en plein. Lecture de la presse allemande. Ensuite, et ça c'est remarquable, il envoie ses hommes de l'ambassade sur le terrain. Et ça, on le voit, il dit, j'ai envoyé un de mes attachés, un des diplomates, un secrétaire, assister au meeting national-socialiste, assister à l'arrivée de la flamme olympique à Berlin, voilà. Assister à tel événement à l'Est qui présente le service du travail en Prusse orientale, par exemple. Ensuite, oui, il est très complet, il a ses informateurs. Donc, pour certains, il y a le nom, on a le nom, donc on sait qui c'est. Ils sont des visiteurs familiers de l'ambassade. C'est toujours le cas, hein, dans l'ambassade, il y a des gens qui viennent, des contacts, qui sont des Allemands. Et souvent, ça m'a intéressé, ça intéressera Olivier, des Alsaciens. Alors, des Alsaciens qui sont soit des travailleurs qui se sont embauchés en Allemagne, soit ces Alsaciens qui ont été expulsés en 1918, 19 et 20 par la République française, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment français, donc, qui gardent un sentiment. Donc, il y a des ouvriers allemands, donc il y a des remarquables, des ouvriers allemands qui passent à l'ambassade et qui racontent leur vie quotidienne. Et en 36, 37, et il dit, mais contrairement à la propagande du régime, moi j'ai du mal, on a du mal à s'en sortir. Le niveau de vie n'a pas augmenté pour les ouvriers. Donc il a quand même des sources tout à fait étonnantes. Ensuite, il a des sources illégales, puisqu'il se procure la presse clandestine. Peut-être pas de façon systématique, il y en a un d'ailleurs qui l'analyse, on a des très beaux textes sur les bulletins du clandestin du Parti communiste allemand. Je peux continuer comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est que les sources se raréfient à partir de 35-36. On voit le totalitarisme arriver. On voit que la qualité de l'information, comme ça, sur le terrain est moins bonne. C'est la terreur. Les Allemands ne parlent plus. La presse est complètement muselée. Alors, il va à Francfort je ne l'ai pas mis dans le... Je ne peux pas tout mettre, mais il y a un très, très beau rapso. Il va rencontrer les journalistes de la Frankfurter Zeitung à l'époque, qui était le journal libéral, où il y a une toute petite marge de liberté qui est accordée par rapport à la presse. Il le dit, tout ça, c'est très passionnant. Et puis, il y a des lettres anonymes qui sont reçues à l'ambassade, de juifs aussi, en particulier. Aidez-nous, comprenez ce que nous vivons. Voilà, tout ça fait des sources très variées.
En t'écoutant, je me demande, par exemple, ces homologues, les ambassadeurs de France dans l'totalitaire, en URSS et dans l'Italie fasciste, mm-hmm. est-ce que tu as pu regarder, ou est-ce que tu sais si les ambassadeurs faisaient un tel travail, rassembler autant d'informations, ou est-ce que ce qu'a fait Poncet en Allemagne a vraiment été unique à cette époque-là?
C'est unique. Ça, je n'ai pas de comparaison, il faudrait le faire, mais je veux dire, c'est vraiment unique. Peut-être parce qu'il n'était pas diplomate de carrière. Il n'est pas passé par le moule, par les écoles, par le fameux concours d'Orient où on apprend à rédiger une note dans un style quand même très... C'est vraiment unique et c'est une espèce de mythe au Quai d'Orsay, de ce qu'il faudrait faire mais qu'on ne peut pas faire.
Est-ce que tu veux peut-être nous lire un premier extrait justement à la fois sur ce style, sur et la façon dont il observait l'Allemagne à l'époque?
Alors, description du congrès de Nuremberg de 1935. Un texte qui est connu, il y a certains des textes qui ont été après utilisés après la guerre. Spectacle grandiose dont toutes les scènes sont agencées suivant Mesnel. Succession hallucinante de tableaux vivants aux proportions gigantesques. Déroulement ininterrompu de réunions monstres, de défilés qui sont de véritables fleuves humains, de parades qui mettent sur pied les effectifs d'armées entières. Le 7e congrès du Parti national-socialiste, le 3e depuis l'avènement au pouvoir des hitlériens, vient de prendre fin après avoir, pendant 8 jours, tenu toute l'Allemagne en haleine, mis en mouvement des centaines de milliers d'hommes, déclenché vers une véritable migration, amené vers la ville sainte des foules innombrables, mues par un même sentiment et un même désir, voir et entendre l'homme prodigieux qui exerce sur son pays une action magique et qui, après avoir, pendant 14 ans, battu le réveil de la conscience nationale, est devenu non seulement le chef de l'État, le conducteur du peuple, mais encore une sorte de messie de la race germanique. Vous comprenez les côtés, voilà, c'est très... Et c'est pas concis, voilà.
Mais ce passage est pas mal quand même. Enfin, il est décrit extrêmement bien ce que fut Nuremberg. Dans ton intro aussi, tu dis qu'il a rencontré plusieurs fois Hitler.
Oui.
Mais dans le livre, je n'ai pas retrouvé de rapport faisant état justement d'une rencontre. C'était des rencontres en tête-à-tête. Qu'est-ce qu'on sait de ces rencontres? Qu'est-ce qu'un ambassadeur de France pouvait dire de là, déjà au pouvoir, puisqu'il ne l'a pas rencontré? Tu disais qu'il ne frayait pas avec les nationaux-socialistes avant la prise de pouvoir des nazis en 1933.
Alors oui, là encore, j'aurais pu mettre des rapports sur les rencontres avec Hitler. Il en a beaucoup parlé dans ses mémoires de 1946. Hein, il y a un chapitre très célèbre qui est souvent cité sur la dernière rencontre qu'il a avant de quitter Berlin. Le Führer l'appelle à Berchtesgaden. Il envoie un avion et il rencontre Hitler. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que, là encore, je ne voulais pas tout faire. Le rapport le plus intéressant que j'ai trouvé, qui est souvent cité, c'est la première rencontre qu'il fait avec Hitler, et c'est dans l'ambassade d'Italie, où il dit, alors là, vous voyez qu'il n'est pas toujours très prescient, il dit, c'est un Mussolini de village. Après, c'est un Mussolini de village. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis? C'est un scrupule d'historien, parce qu'en fait, on a le brouillon, et je ne l'ai pas retrouvé dans les archives, donc je ne sais pas s'il a été envoyé. Je ne l'ai pas retrouvé. Alors peut-être qu'il est passé par en télégramme, et donc les télégrammes ne sont pas reliés systématiquement par rapport... C'est un scrupule d'historien, comme je voulais, des rapports de Berlin qui ont été envoyés à Paris. Alors, sur ces rencontres avec Hitler, on est dans un registre plus ambigu. François Poncet se vantait de voir Hitler en tête-à-tête et de pouvoir lui parler. Hitler l'écoutait. Et donc, François Poncet était quelqu'un qui était très imbu de lui-même. Il y a des tas d'anecdotes, il y a des tas de blagues sur lui qui circulent encore, sur le fait qu'il était, voilà, il avait raison, on ne discutait pas. Donc, il pensait pouvoir raisonner Hitler. Bon, après, il n'a pas tellement insisté dans ses mémoires là-dessus, mais il pensait pouvoir raisonner Hitler. Il disait, il m'écoutait. Et on discutait de la paix en Europe, etc. Et puis, il était très ambivalent vis-à-vis de la personnalité d'Hitler. D'ailleurs, on le voit dans un texte que je rapporte, enfin, je cite le livre de 1946, Souvenir d'une ambassade à Berlin, où il voit Hitler comme quelqu'un de très raisonnable, très posé, avec qui peut discuter. Et puis tout d'un coup, Hitler part dans une dans un délire, une très grande diatribe très violente contre la France. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Il était très cyclothymique, il changeait en quelques instants, il pouvait changer de ton. À la fin, il était jamais, les gens qui l'entouraient disaient qu'il n'était plus jamais posé, il était tout le temps dans une colère à partir de 1943-1944. Donc, il est très ambivalent, et puis il se rend compte, François Poncet pense qu'il peut avoir un dialogue constructif avec Hitler dans une politique, appelons-la par son nom d'apaisement, en fait. Hein. Et en même temps, il s'est rendu compte à partir de 1939 qu'il a roulé. Et d'ailleurs, Hitler le dit dans les propos de table, qui ont été réédités aussi d'Hitler, qui ont été réédités récemment et commentés, qui sont un texte un peu compliqué, c'est douteux, hein, c'est de la seconde main, mais bon, qui a été beaucoup cité. Donc, c'est un familier d'Hitler qui cite les conversations, pas de vérification de la réalité des propos. Mais à un moment, Hitler parle des diplomates et il dit « c'est tous des snobs, on en fait ce qu'on veut voilà. ». Hitler avait un grand mépris pour les diplomates, Adenauer aussi d'ailleurs. Et on en fait ce qu'on veut. Et d'ailleurs, François Poncet, je l'ai roulé dans la farine. Quoi. Enfin, lui, alors il dit, la phrase est intéressante. Là encore, c'est du second moment. Il dit « tous ces ambassadeurs, ils pensent qu'à faire des cocktails Moi, je dis toujours, c'est les huîtres d'ambassade. Je cite Gombrowicz, j'aime beaucoup, voilà, les cocktails à l'ambassade. Mais pas François Poncet, lui, il fouinait partout. C'est ça, ça correspond à ce que j'essaie de dire. Il va par rang. Il travaille acharné aussi. Hein. Pour écrire tout ça, il travailleur acharné. Et il est en mission, voilà. Il veut comprendre le régime. Donc, la relation avec Hitler, c'est compliqué. Et François Poncet les a beaucoup réécrites après la guerre. Il y a des choses qu'il a réécrites qui ne correspondent pas à ce qui sont dans les rapports.
Est-ce que tu peux nous faire une espèce de tableau d'ensemble de ce qu'a été la diplomatie française vis-à-vis de l'Allemagne en 1938, c'est-à-dire au moment où Poncet... Non, globalement, pour essayer de comprendre, puisque là, on a ce qui sort de Berlin et ce qui arrive à Paris, franco-français... On n'a pas l'autre côté, c'est ce qui va de Paris, ce qui part de Paris jusqu'à Berlin. Comment évolue la diplomatie française ? Puisqu'il y a une forme de lucidité quand même.
Alors, il y a une forme de lucidité chez François Poncet. Alors, lui a toujours dit qu'il n'a pas été élu. Il le dit dans ses mémoires de 1946, il n'a pas été élu. Que lui a compris, mais pas le Quai d'Orsay, donc il se dédouane. Hein. La diplomatie française, d'abord, elle est fixée traditionnellement en République par le gouvernement et pas par les diplomates. C'est la règle. La diplomatie française, elle rapporte des informations et elle est dans une politique qui varie entre une politique de fermeté et une politique d'apaisement. Et ça peut varier d'un mois à l'autre. Ça dépend du cabinet. Vous savez qu'il y avait une grande instabilité ministérielle. Donc, en gros, il y a une relative lucidité, pas partout, hein, mais il y a une relative lucidité vis-à-vis de l'Allemagne, en particulier du danger d'une guerre. Et il y a un débat conçu, préparé. Et donc, c'est la question du réarmement français. Et on sait, par exemple, que le Front populaire... à réarmer. Contrairement à tout ce qu'on a dit après, ce qu'a dit Vichy, Pétain, hein, ce qu'a dit Vichy, le Front populaire, Blum, par exemple, a commencé à réarmer. Mandel a été quelqu'un qui a réarmé. Donc, l'idée, c'était que le danger est là. On ne sait pas sous quelle forme il va arriver. Qu'on imagine. Donc, la diplomatie française, elle n'est pas très claire. Mais elle est beaucoup moins cohérente que la diplomatie britannique, par exemple, qui, elle, a une diplomatie d'appeasement. Donc, surtout ne pas énerver Hitler, continuer à discuter. Mais la diplomatie française n'est pas cohérente. Voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre de façon...
elliptique.
Elliptique, oui, non, mais c'est...
Mais alors justement, quand on lit les rapports que l'électionnaire, donc on l'a déjà dit, mais je pense que c'est important de le souligner encore, c'est que l'ambassade de France les consuls, effectivement, il y en a beaucoup. Toutes ces informations que les uns et les autres glanent, globalement, avaient plutôt bien décortiqué la machine nazie. La machine économique, la machine militaire, notamment le projet de guerre totale. Il y a un sous-chapitre sur la guerre totale qui est extrêmement intéressant, qui date de 36, si ma mémoire est bonne. L'idéologie aussi, et la résurgence d'un pan-germanisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'incurie des dirigeants politiques et militaires français en 1939 et en 1940, quand on a...
Alors, bon, incurie des dirigeants militaires, maintenant, bon, les historiens sont quand même assez clairs, l'incurie, c'est l'incurie des militaires. Hein, c'est que la défaite, la débâcle de mai-juin 1940, c'est pas parce que les Français ne se sont pas battus. Ça, c'est... Si vous voulez, en gros, les historiens disent le problème, c'est que Vichy a gagné la mémoire des années 30. C'est-à-dire que le discours de Vichy en disant les Français ne voulaient pas se battre, les Français, l'esprit de jouissance a primé sur l'esprit de sacrifice, on l'a dans les représentations de l'époque. En fait, les historiens, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ont montré que ce n'est pas vrai. En 38, on se réarme, on travaille. Les syndicats sont là, la guerre est là, il faut se battre. En 39, on est là, on est prêt. Et au moment de la débâcle, on se bat. Il y a un taux de mortalité parmi les soldats français terrible. C'est plus qu'à Verdun, pendant les 6 semaines de la débâcle. La défaite, elle est due à l'absence de visibilité des militaires pour la nouvelle stratégie militaire, la Blitzkrieg. Les militaires français ne l'ont pas compris. Même De Gaulle ne l'a pas compris, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire les avions qui bombardent et les chars qui font une percée à Durchbruch, comme ça, et qui a été utilisée avec succès. Hitler lui-même l'a validé au dernier moment. Il disait, voilà, c'était risqué. Il disait, voilà, Sedan, vous dégarnissez le front et vous poussez à Sedan. Et ça a marché. Donc l'incurie et la débâcle, elle est due à ça. Elle n'est pas due à l'idée qu'on voulait absolument se coucher devant l'Allemagne. Elle n'est pas due à l'idée qu'on ne voulait pas se battre. Alors, juste encore un mot sur l'incurie. C'est le bon diagnostic. En tout cas, François Poncet a le bon diagnostic. Voilà, c'est la guerre. Je voulais peut-être vous lire, j'ai le retrouver.
Le passage sur la guerre totale ?
Non, le passage sur les Jeux Olympiques. C'est quand même très, très fort. Alors, juste quelques phrases. Gardez-moi quelques instants. Donc on a des pages et des pages, des pages sur les Jeux Olympiques, absolument magnifique. Et donc c'est la cérémonie d'ouverture, c'est un télégramme chiffré du 2 août 36. J'ai assisté hier aux diverses cérémonies qui ont marqué l'inauguration des Jeux Olympiques de Berlin. Ces fêtes ont eu réellement un caractère grandiose. Voilà, bon, lisez-le, c'est tout à fait extraordinaire. Hein, là. Il termine. 20 000 enfants, jeunes gens et jeunes filles ont présenté un spectacle aussi magnifique que plein de goût et de grâce. Donc, la fascination quand même du régime. Au fil de 100 choristes ont chanté l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven. Ceux qui, en l'écoutant, songeaient à la fragilité de la paix du monde ne pouvaient se défendre d'avoir le cœur serré. Intéressant quand même. Hein. Donc, il dit qu'il va y avoir la guerre, il y a le nationalisme, il y a le pan-germanisme, il y a l'agressivité, il le dit, c'est la propagande. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faut négocier, faut Munich.
Oui, on va parler de Munich après, parce que ça, c'est vraiment assez facile, l'épisode. Mais là, quand je te posais la question par rapport aux réactions, que ce soit du quai ou des dirigeants français, tu parles du Front populaire, donc c'est 36, puis après on a parlé de 38-39. Mais entre 33... et 36, d'après les télégrammes, les rapports plus exactement que j'ai lus, il y a quand même des choses extrêmement précises. C'est-à-dire que cette ambassade comprend quand même à peu près ce qui se met en branle et qui va évidemment s'accélérer à partir de la remilitarisation de la Rhénanie en 36.
Alors, je veux dire, la cuisine de l'historien, l'atelier de l'historien, par ça. J'ai les textes, je sais qui les a écrits à peu près, je sais comment ils ont été envoyés. Je sais qui sont reçus, je sais qui les reçoit, parce qu'on a le destinataire. Alors, je vais expliquer, voilà, qui est le récipiendaire Il y en a plusieurs, souvent. Mais moi, ça s'arrête. Je ne sais pas comment les réceptions, le bureau Europe ou le bureau Allemagne du Quai d'Orsay va digérer ça et va le faire monter au niveau du cabinet du ministre ou des ministres. Hein, ça valse.
Tu sais combien il y a de ministres d'affaires étrangères entre 31 et 30...
Non, je ne les ai pas comptés, mais... Mais là encore, la politique, elle est faite par le gouvernement. Il ne faut pas surévaluer l'importance du ministre. L'importance du ministre des Affaires étrangères, encore aujourd'hui, on le voit régulièrement, c'est décidé par le président chez nous, hein, avant le président du Conseil, qui décide de donner la direction de la diplomatie au ministre ou pas. Alors, je ne vais pas détailler, mais vous pensez bien, pensez aux ministres récents. Il y en a qui ont eu, visiblement, ont mené une diplomatie. Il y en a d'autres qui n'ont mené rien du tout. Les décisions étaient prises à l'Élysée. On a la même chose sous la 4e République. Mais le livre n'est pas là-dessus, en fait.
Non, mais...
Le livre n'est pas sur le rôle de François Poncet dans la montée des périls ou sur les responsabilités des élites françaises dans, comme tu dis, l'incurie et la défaite. Je pense que c'est un autre livre et je pense qu'il faudrait reprendre tout ça. Il faudrait reprendre ces débats.
Voilà, ce sont des questions que je me suis posées en lisant l'ouvrage. Puisque, voilà, donc là, on a les sources qui remontent de Berlin, mais qu'est-ce qu'on en fait? On a simplement, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, mais qui n'est pas historien comme moi, on a les résultats quelques années plus tard. Mais je me demandais justement comment... Lorsqu'on a des diplomates globalement très lucides sur la révolution qui est en cours en Allemagne dans les années 30, comment finalement on a pu sembler ou surpris à la fois par... Parce que l'autre question que je me posais, cette machine idéologique qu'est l'Allemagne nazie, j'ai le sentiment que Poncet, même s'il y a évidemment une forme de fascination pour ce qui est en train de se passer, parce qu'effectivement c'est un phénomène révolutionnaire, historique, mais il y a une lucidité... Est-ce qu'à Paris, on prend conscience justement avec tout ce qui est envoyé sur cette extraordinaire, au premier sens du terme, machine idéologique?
Alors, François Poncet dit que non, clairement. Il dit « je n'ai pas été élu ». Peut-être que c'était trop long, qu'ils avaient... Voilà. Il dit que non. Sur ce que j'ai pu voir dans le... Bon, pour mes autres livres, je pense qu'il avait raison. Il y avait des gens qui étaient très conscients de la diplomatie, mais la plupart des diplomates ils pensaient à leur carrière. Ils n'avaient pas une vision très large de la situation dans le monde. Et je dirais même que François Poncet était même parfois isolé au sein de ses propres bureaux en Allemagne. Parce que, ce que je l'ai dit, lui est très lucide. Il se trompe parfois. Mais il y a des consuls qui le sont beaucoup moins. Et parfois, il y a des rapports alors signés par lui, mais on voit très bien, vous avez compris que ce n'est pas lui qui l'a écrit, et les rapports sont très naïfs. Écrit par numéro 2, je ne sais pas qui l'a écrit, mais les rapports sont très naïfs. Par exemple, il y a un rapport que je cite sur les premières lois permettant la... Alors les lois... qui mène vers l'eugénisme et donc l'euthanasie, en fait. Et il y a une loi sur les contrôles médicaux prénuptiaux. Bon, c'est une des premières lois allemandes. Et le rapport là-dessus est très positif. Il ne comprend pas où ça va mener, en fait, cette idée de l'hygiène raciale qui est mise en œuvre. Donc je pense qu'il était... et on le voit très bien pour les rapports des consuls. Alors, rapport des consuls, petite parenthèse, c'est beaucoup moins complet. C'est qu'on a les rapports de Berlin. Pour les rapports des consulats, alors je donne la liste, etc., de Dresde à Francfort, Bremen, Hambourg. Il y en a un consul à Königsberg aussi, à ce moment-là. Il y a des rapports qui sont très bons. Le consul général à Munich... Lui est très, il dénonce l'antisémitisme. D'ailleurs, après la guerre, il va écrire un livre très très rare, très unique, à la diplomatie française. Il va écrire un livre après 67 en soutien d'Israël. Il le dit. Il dit pourquoi je soutiens l'État d'Israël, et je pense que la diplomatie française doit soutenir l'État d'Israël. Après 67, il y a la réprobation d'Israël qui commence après la guerre des six jours. Il dit, mais parce que à cause de ce que j'ai vu dans les rues de Munich dans les années 30. Très clair, c'est Bourdeillette. Donc même d'autres personnes en poste à Berlin ne sont pas aussi lucides.
Alors maintenant, parlons de Munich, parce que ces rapports, vous avez tous compris qu'il y a une toute petite partie de ces fameux rapports, télégrammes et autres, dépêches, donc chroniquent les grands et les petits événements des années 30, en gros. Étonnamment, en tout cas, dans le livre, il n'y a rien sur la conférence de Munich qui a lieu en septembre 38, donc quelques semaines, quelques mois avant son départ, le départ de pensée de Berlin, qui va quand même sceller le sort et de l'Europe centrale et va ouvrir la voie à la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que tu as trouvé sur Munich de Berlin et surtout, quel a été le rôle de Poncé dans la délégation française, dans la préparation et dans le déroulement de cette fameuse conférence de Munich?
Alors, pourquoi j'ai pas mis Munich? D'abord parce que j'avais mon éditrice qui m'envoyait des emails en me disant pas trop long, pas trop long. Évidemment parce que je trouvais que c'était un tout petit peu à côté de ce que je voulais montrer, c'est-à-dire la description de la société allemande sous le nazisme et du régime et des organisations de mobilisation de la population. Alors, c'est discutable, tu vas dire peut-être que ça manque, apparemment c'est ce que tu sous-entends, mais voilà, j'assume ce choix. Ce n'est pas un livre sur la relation franco-allemande, sur la montée des périls en Europe, ni sur la diplomatie internationale en Europe dans les années 30. Alors, le rôle de François Poncet à Munich, on ne sait pas. Ce n'est pas très clair. Il était présent à Munich, hein, il était là. Mais la décision politique d'avaliser Munich a été prise par le président du Conseil à l'époque, français, par le Premier ministre britannique, par Mussolini, pas par François Poncet. Alors, quelle a été son influence sur les décisionnaires français? On ne sait pas exactement. Bon, simplement, quelle a été son influence? Ce qu'il a dit après la guerre, mais on pourra reparler aussi de la réécriture, la légère réécriture de l'histoire et de son rôle qu'il a fait. Il a dit, moi, je n'ai joué aucun rôle. Forcément, en 1946, c'est pas très... on ne se vante pas d'avoir fait Munich, ni en 1941, d'ailleurs. Il dit, moi, j'ai joué aucun rôle. D'ailleurs, j'ai joué aucun rôle dans la diplomatie franco-allemande. Il l'écrit clairement. Il disait, je l'ai cité dans l'introduction, je me contentais d'être le messager, en fait, d'envoyer les décisions, notes, demandes de Paris vers ses correspondants, c'est-à-dire les ministres allemands des Affaires étrangères. Et voilà, donc c'est ce que je peux te raconter sur Munich. Alors, peut-être juste en profiter pour parler de François Poncet après 40, après la défaite. Il est déjà âgé, il est né en 1887, il est relativement âgé, et il va à Vichy. Il est vichiste. Il va à Vichy pour demander un poste. Donc, ouais, sa lucidité a quand même des limites, vous voyez. Alors que c'est quelqu'un qui est très républicain, qui n'est pas du tout antisémite, ça vraiment j'insiste, qui est libéral en politique, mais bon, voilà, comme beaucoup d'élites françaises, se convertissent très vite au nouveau régime. Alors, il va à Vichy, et à Vichy, on le nomme membre du Conseil national, qui est cet organisme fantôme qui a été créé, qui a quasiment pas siégé, qui devait écrire une constitution pour l'État français. Je vous rappelle que le régime de Vichy, c'est un... d'abord les pleins pouvoirs au maréchal pour changer les lois constitutionnelles, uniquement. Et ensuite, le lendemain, il y a une saisie des pleins pouvoirs complets. Donc c'est à moitié un coup d'État. Et donc, il y a ce Conseil national. Il va au Conseil national, puis il a une chance quand même, c'est qu'il est mis en retraite en octobre du Quai d'Orsay. Donc il a plus... c'est intéressant, j'ai beaucoup écrit après dans un autre livre sur les diplomates français sous Vichy et dans la Shoah. L'après-guerre, intéressant. Donc il a une chance. Après, je veux dire entre guillemets, j'ai dit ça à l'orage, je pourrais pas l'écrire, mais il a eu la chance aussi comme il était très important d'être dans le charter des hauts fonctionnaires français qui sont, entre guillemets, déportés en Allemagne en 1943. Alors, déportés, il est assigné à résidence dans une villa en Bavière, d'ailleurs avec le très vieux président Émile Loubet, qui était un très vieux monsieur qui était président de la Troisième République, sa Troisième République. Et donc, il est là dans des conditions... c'est pas un camp de concentration. Et Léon Blum, lui, il est envoyé, il fait partie du même charter, mais lui, il est envoyé à Brunal, mais pas dans le camp. Voilà, donc il est là, c'est pas très agréable, il est otage. Et d'ailleurs, il est libéré dans le réduit alpin nazi. Mais quand il rentre, il est presque, pardonnez-moi l'expression, vierge. Et donc, il veut se relancer dans cette nouvelle république, alors qu'il n'a pas été résistant du tout. Il veut se relancer, c'est pour ça qu'il écrit ses mémoires, Souvenirs d'une ambassade. Il va réécrire très légèrement sa vision des années 30, et ça marche. Et donc, il recommence une carrière, puisqu'il est haut-commissaire français en Allemagne, important, et brièvement ambassadeur. Puis après, il écrit, il est président de la presse à l'Académie française, et il publie des tas de petits bouquins, comme ça, c'est une voix française sur l'Allemagne, donc sur l'économie allemande, sur une réflexion sur l'Allemagne. Il y a toute une bibliographie comme ça. Et je dois dire qu'en lisant ça, jusque dans la fin des années 60, on va passer en revue cette littérature qui publie régulièrement, je trouve ça très mauvais. Là, pour le coup, il ne comprend pas la nouvelle Allemagne. Il ne comprend pas la... Donc, ouais, il n'était pas bon tout le temps.
Ces rapports constituent aussi, bien évidemment, la chronique de la descente aux enfers des Juifs d'Allemagne. Poncet prend-il conscience de la dimension antisémite originale du nazisme très rapidement? À quel moment? Peut-être que tu peux citer justement l'un ou les premiers rapports qui arrivent très très tôt, puisque les mesures de boycott arrivent très très tôt aussi. Est-ce qu'il y est vraiment sensible?
Alors, oui, donc naturellement, c'est quelque chose. Il y a un biais de l'historien, je suis historien de la Shoah, en Allemagne et en France en particulier, et donc je ne veux pas vous donner l'impression que dans ces rapports, il y en a des centaines et des centaines sur le sort des Juifs. Ce n'est pas majeur. Mais il y en a quand même beaucoup. Et ils sont, alors là aussi, ça fait partie des bonnes surprises, ils sont tout à fait passionnants, et ils sont tout à fait, sympathiques pour les Juifs. C'est-à-dire, il y a une dénonciation. Voilà, ça ne va pas. Voilà, ce n'est pas une description neutre ou positive. Il y a une dénonciation. Alors, les rapports sur les Juifs et sur l'antisémitisme sont quasiment inexistants. Parfois, on voit des mentions avant janvier 1933. Alors qu'il y a dès 1931, ça j'ai une partie sur avant 1933, il arrive et dès 1931, il voit le danger nazi. Ça, c'est tout à fait étonnant. Il ne dit pas qu'il va arriver au pouvoir, mais des problèmes qui arrivent, c'est de commander des rapports interminables, 50, 60 pages, décrivant précisément le parti nazi, la presse, les organismes satellites, l'organisation régionale. Mais là, sur les Juifs, ce n'est pas très présent. Février 1933, il écrit les premiers rapports, tout simplement parce que la France a un problème, et ça va être récurrent dans les années 30, c'est l'arrivée des réfugiés. Dès février 1933, il y a une vague de réfugiés qui vont en France. Hein, c'est quand même la première destination. Hommes d'affaires, politiques d'abord. C'est pas massif, mais bon. Et donc, que doit faire la France dans cette politique d'accueil? Là, on sait que ça a été le débat constant durant toutes les années 30. Et là encore, on a un verre à moitié vide, à moitié plein. À peu près 70 000 juifs allemands sont réfugiés en France. Donc, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Sur un total, ils étaient quoi, 540 000 juifs? 600 comptant la SAR. Ouais. On est un peu en dessous. Donc voilà, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est à peu près autant qu'en Grande-Bretagne. Et donc il y a cette question juive qui arrive pour des questions très matérielles, concrètes. C'est l'ambassade qui donne des visas. Et donc le 5 avril 1933, il y a une erreur de date. Dans le texte, c'est 5 mars, mais donc 5 avril 1933, donc on est après la première journée de boycott à moitié ratée. Et donc on a un long rapport sur l'exclusion des démons. On est avant la promulgation de la grande loi dit du rétablissement de la fonction publique qui en fait épure la fonction publique des juifs, des sociodémocrates, des, donc qui date du 10-11 avril, donc on est avant ça. Et François Poncet écrit « Mais ce ne sont pas les mauvais traitements corporels qui effraient le plus les juifs allemands. Ceux-ci redoutent beaucoup plus encore la persécution méthodique et perfide qui prive les membres des carrières libérales et même les petits employés de tous leurs moyens d'existence et qui fait d'eux des citoyens de second ordre parqués en marge de la communauté allemande dans une sorte de ghetto moral. Des milliers d'existences sont ainsi brisées. Ainsi, le nombre de juifs voulant quitter l'Allemagne s'est-il accru ces temps derniers ?» Et ça, je trouve ça remarquable parce qu'on est en avril 33 et là, il annonce l'isolement absolu, alors qu'il a très peu d'informations. Il dit, voilà, c'est fini pour l'intégration des juifs en Allemagne. Il n'annonce pas la Shoah, on n'a pas dans les rapports diplomatiques, mais très tôt, il dit, voilà, c'est fini. C'est fini pour les juifs allemands, pour leur égalité, pour leurs moyens de subsistance.
Alors effectivement, une autre chose qui m'a frappé dans ce chapitre sur le sort malheureux des juifs allemands à l'époque, c'est la question des visas. Et on voit, alors on entre à peine dans la cuisine de la diplomatie française, mais on sent que c'est une espèce d'angoisse, combien de juifs vont arriver. On voit qu'il y a différentes catégories, il y a les hommes d'affaires, il y a ceux qui n'ont pas tellement d'argent, il y a les juifs de l'Est aussi, ont réalisé récemment allemands entre 18 et 33. Et ce que j'ai découvert, c'est quand, pour aller en France, ils avaient besoin d'un visa, alors que par exemple pour aller en Grande-Bretagne, en Hollande ou en Suisse, ou dans les pays d'Europe centrale, orientale, voisine, ils n'avaient pas besoin. Pourquoi est-ce qu'il fallait un visa pour la France ?
Alors, ils ont un visa pour s'y installer.
Mais pour en Angleterre aussi, j'imagine, ils avaient besoin d'un...
Ils ont besoin d'un visa pour s'y installer. Alors, là encore, je précise, le livre n'est pas là-dessus. Il y a un excellent livre de Vicky Caron, qui a été traduit en français, qui a publié chez Talendier il y a quelques années, qui s'appelle Uneasy Asylum en anglais, donc l'asile impossible, quelque chose comme ça, qui détaille alors sur toute la politique française vis-à-vis des réfugiés juifs allemands, autrichiens et tchèques. La politique des réfugiés, d'accueil des réfugiés, n'est pas entre les mains du ministère des Affaires étrangères. Elle est entre les mains du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, la création de l'OFPRA dépend des étrangers, donc des réfugiés, ça date de l'après-guerre. C'est 52 ou 53, il y a un livre auquel j'ai contribué sur l'histoire de l'OFPRA qui va paraître là au mois de juin. Alors, les diplomates, ils ont un rôle d'exécutant d'une politique qui est décidée à Paris, mais ils ont une marge de manœuvre. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on a, dans les Holocaust Studies, là encore, pardonnez moi d'utiliser l'expression anglaise, on a un grand thème qui est le rescue, la salve. Et donc, on a tout un chapitre sur les diplomates qui ont sauvé des juifs. Comment ? En donnant des visas. Donc avant, on a tout des chapitres, toute une littérature énorme là-dessus. Mais on n'a pas de Français identifiés, diplomates français identifiés comme ayant voulu explicitement sauver des juifs en donnant des visas. On n'a pas de grands héros français. Français, je veux dire. Outrepasser les ordres pour donner plus de visas en France. On n'a pas l'équivalent de Souza Mendes pour le Portugal, de Sugihara pour le japonais en Lituanie, qui désobéit et qui signe des visas pour sauver des vies. On n'a pas ça. Par contre, et ça, ce n'est pas dans les archives diplomatiques, de toute façon. Par contre, on a des témoignages, pas mal de témoignages, que certains consuls ont été favorables et ont été, voilà, ont donné d'ailleurs... Témoignage intéressant qui est celui d'Enel Tsiksous. Je sais qu'elle parle ici, mais elle a décrit dans un de ses livres, sa mère est allemande, de Dresde, non, enfin, non, ils sont de Osnabrück, mais elle décrit dans un de ses livres que sa mère et sa tante et la grand-mère sont partis parce que le consul de France à Dresde va les voir et leur dit, bon, écoutez, là, franchement, ça va, ça suffit, il est temps de partir. Alors, c'est une histoire orale. Il est temps de partir et signe le visa. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en contact avec eux et parce qu'une partie de la famille avait vécu en Alsace allemande à l'époque du Reichsland. Mais on a toutes ces relations interpersonnelles qui font qu'en creusant un peu, on trouvera, à mon avis, beaucoup de cas de consuls qui ont été très favorables et qui ont signé. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, il y a... Alors ça apparaît dans un des rapports hein, que j'ai de Francfort. Il y en a beaucoup. Il y a traditionnellement dans la diplomatie des liens particuliers avec les communautés juives. Pas par philosémitisme. Enfin, il y a une tradition quand même au XIXe siècle, la France champion d'émancipation. Donc les diplomates vont, français entre autres, vont un peu protéger les communautés juives qui sont considérées comme souvent des agents de la France. Les juifs parlent souvent français à cause de l'alliance israélite. Enfin, il y a tout un rapport des juifs non français à la France. Et donc, il y a ça pas vu. Je ne vois pas de François Poncet dînant avec Max Warburg, qui est le directeur du... alors, c'est pas le Central Rat, à l'époque, c'est le Verband der Juden, etc. Donc, l'organisation d'une des organisations représentatives des Juifs. Je ne le vois pas. Peut-être que ça a eu lieu, mais je ne l'ai pas. Par contre, au niveau des régions, on voit très bien que le consul, il a des relations avec les communautés juives. Souvent, les consuls honoraires, pas les diplomates de carrière, mais c'est ceux qui ont le droit de donner les visas, sont des hommes d'affaires, sont des Juifs. En Allemagne, il y en a beaucoup. Et puis, on voit très bien, alors, il y a on est en 36, 37, je ne sais plus, le rapport, le 14 juillet au consulat de Francfort, ils disent il n'y a pas grand monde, parce que, vous comprenez, les Juifs, ils veulent plus, ils sortent plus, quoi. Ils sont partis ou ils sortent plus. Et en général, la foule des qui viennent, donc les obligés, les représentants, les amis, du 14 juillet à Francfort, mais il y a beaucoup de Juifs de Francfort. Et donc, voilà, on a dû limiter les festivités, parce que les Juifs ne veulent pas se montrer avec nous, parce qu'ils pourraient être accusés de pactiser, et puis il y en a beaucoup qui sont déjà partis.
Moi, j'avais peut-être une dernière question, c'est justement entre ce que tu as découvert, lu, détricoté avec ces rapports diplomatiques, et fameuse mémoire publiée donc dans l'immédiate après-guerre, qui change entre ce qui a vraiment été écrit sur le moment et la réécriture de l'histoire, surtout la réécriture de l'histoire après, immédiatement après la guerre.
Alors, ces fameux mémoires dont on a parlé, publiés en 1946, l'introduction, il commence en disant « vient de s'ouvrir le procès de Nuremberg hein. ». Donc c'est ce mémoire qui... Alors, il n'est pas explicitement un mémoire en défense, mais qui est une manière pour lui de se relancer. D'abord, ce que je vois, c'est qu'il avait probablement une partie des textes que j'ai lus les yeux, ce qui est assez fréquent. Un diplomate va partir à la retraite, il n'a pas le droit normalement, mais il part avec des brouillons, avec des copies de ses œuvres en fait, des télégrammes. Ça, c'est assez fréquent. Donc, il en a une partie. Donc, il y a quelques phrases qui se ressemblent, il y a des expressions. Sur la nature du régime et sur la propagande, ça se ressemble. Sur les dangers de guerre, beaucoup moins. Il a minoré les dangers de la guerre certaine, la guerre qui va venir, l'expansionnisme. C'est minoré dans les souvenirs d'une ambassade à Berlin.
Oui. Ce qui me semble étrange, dans la mesure où la guerre a eu lieu, et finalement, il était très lucide 10 ans plus tôt. Pourquoi est-ce qu'il minore finalement...
Parce qu'il était à Munich.
Mais Munich, il en parle ou pas dans ses...
Oui, alors là, on a le récit dans le souvenir, on a le récit de Munich, mais c'est un récit, disons, du protocole, comment ça se passe, qui reçoit qui, et dans les corridors, il ne se met pas en avant comme décisionnaire. Alors, il y a ça, mais moi, ce qui me frappe, c'est que les rapports sont bien meilleurs, sont plus fins, sont plus détaillés dans l'analyse du régime. Alors, peut-être, est-ce que c'est lié au fait que bon, il a moins de place, son but est différent. Son but n'est pas d'écrire un livre sur le national-socialisme. Il est d'écrire une justification de son travail à Berlin pour recommencer une deuxième carrière. Alors, j'ai juste pour dire ça sur comment il a évolué. J'ai repris la. Préparer cette soirée, j'ai repris un des textes qu'il a écrit. Alors, en 64, François Poncet va préface la réédition du livre de Hugues Trevor Roper, donc l'historien de d'Oxford, mais qui est passé par les services de renseignement britanniques. Je ne sais pas si tu vois, c'est un fameux livre sur les derniers jours d'Hitler. Voilà, c'est le grand livre qui est un livre de commande. Quand les soviétiques commencent à faire circuler les rumeurs sur qu'Hitler n'est pas mort, pour des raisons que je n'ai jamais compris, pourquoi les soviétiques ont fait circuler ces rumeurs qui sont florissantes sur Internet. Hein, ça, regardez un peu, vous verrez ces histoires de Hitler.
Mais il y a même un historien que j'ai rencontré en Patagonie, qui a commencé à exploiter ce filon il y a 10 ans, qui continue chaque année. Et donc là, je l'ai vu il y a un an et des poussières au fin fond de l'Argentine, en Patagonie, et qui me disait qu'il y avait la preuve qu'Hitler était toujours vivant en 60, non, qu'il était mort en 69 et qu'en 71, ses plus proches camarades encore en vie avaient fêté son anniversaire dans un hôtel au Paraguay. Il vient de sortir un livre, bon, pas plus tard qu'hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux.
Voilà, je connais bien l'Amérique du Sud sur ces questions, mais voilà, donc, voilà, Elvis Presley. Le livre republié chez Calman Levy en 64, donc Les Derniers Jours d'Hitler, gros best-seller, hein, toujours très intéressant d'ailleurs. Après, c'est Joachim Fest qui a repris hein, cette thématique. Et on demande à André-François Poncet, c'est intéressant en 64, comme spécialiste du nazisme, en fait. Il n'y en a pas tant que ça en 64, enfin, il n'y en a pas du tout même. Et alors, il dit non, en terminant son livre, notre auteur, réfléchissant au tyran dont il vient de retracer les ultimes convulsions, se pose les questions auxquelles n'échappe aucun de ceux qui se sont attachés à l'étude de cette étrange figure. On reconnaît son style quand même. Comment cet homme et sa bande ont-ils pu saisir et garder le pouvoir? Donc, première question. Et il répond, alors je l'ai noté, je trouve ça très intéressant parce que ce n'est pas ce qui est dans les rapports. La réponse est simple. Donc, c'est François Poncet hein, qui écrit, pas Trevor Roper. Hitler est apparu dans un temps trouble, sorte de messie appelé par les vœux de la foule. Il a été le point de rencontre, la matérialisation des ambitions, des rancunes, des haines, des nostalgies, des rêves anciens, des passions profondes, des préjugés séculaires de millions et de millions d'Allemands. Avant de devenir une cause, il a été un effet, un reflet. Avant de devenir une voix, il a été un écho. Donc, lui, il dit qu'il y a eu... Enfin, tout ça était dans un substrat culturel chez des millions d'Allemands. Donc, le nazisme, l'antisémitisme, le pangermanisme, l'idéal d'obéissance, de soumission, etc. Et que Hitler l'a révélé. Or, dans les rapports, hein, on le lit quand même, tu les as lus, on avait plutôt l'idée d'une masse informe que les nazis vont modeler.
Quand je l'ai lu là, ces derniers jours, moi j'avais le sentiment qu'il décrivait plutôt bien, certes, l'enthousiasme des masses, mais véritablement ce soutien populaire. Enfin, je ne trouve pas ça si différent du passage
non, je ne connaissais pas que tu viens de lire. En 64, il dit que c'était présent dans le peuple allemand, donc c'est passion profonde, préjugés séculaires, et qu'il suffisait de les révéler. Hein, donc il y a une espèce de messie qui était attendu, donc appelé par les vœux de la foule. Alors que dans les rapports, on a une vision beaucoup plus, comment dire, voilà encore, d'un peuple malléable qui va être modelé par un ordinaire appareil de propagande qui est décrit de façon magnifique. Hein. Enfin, là encore, vous n'avez que un petit échantillon. Et par contre, là où je le trouve passionnant, c'est qu'il met en avant l'importance de l'idéologie, qui n'est pas un prétexte pour lui, n'est pas un prétexte. C'est un enjeu du pouvoir parmi les élites nazies, entre Goebbels, Göring, etc. Donc on utilise l'antisémitisme, mais ce n'est pas un prétexte. Et il montre la conviction, c'est-à-dire la machine de propagande, profondément ou non, mais enfin, a convaincu une partie des Allemands. Jamais tous, puisqu'il va toujours parler des réfractaires, hein, du milieu ouvrier, etc. Il n'a pas une vision totalisante. Il les a convaincus. Et actuellement, dans l'historiographie de la Shoah, du national-socialisme, on penche plutôt vers cette approche-là, qui n'est pas une approche intentionnaliste, mais qui est que finalement, cette propagande a changé les baselines, comme on dit en psychologie, les baselines des convictions d'une partie des Allemands. Pas complètement, peut-être qu'ils n'ont pas adhéré complètement à l'idéologie, mais au moins en partie, ils ont été convaincus, pas tout de suite, pas dès 1933. D'ailleurs, il le dit très bien, il a fallu du temps. Donc l'historiographie, disons, dominante en ce moment est plutôt sur ce, plutôt qu'une historiographie fonctionnaliste, qui est donc l'idéologie est un prétexte pour la mise en marche du peuple vers d'autres projets, ce que dit Hannah Arendt. Hein.
Mais il montre bien, en tout cas les premiers rapports, donc avant la prise du pouvoir d'Hitler, combien les Allemands sont perdus, en fait. La violence de la crise de 1929, cette espèce d'immense volcan, en fait, qui est en train de, lentement mais sûrement, on sent que ça va exploser. Et effectivement, ces gens complètement égarés, tout d'un coup, on sent qu'il y a aussi l'envie, quelque part, de se rattacher à une mise en ordre de la société qu'incarne Hitler à ce moment-là.
Oui, mais il dit très bien qu'ils ne sont pas convaincus par tout ce fatras mythologique. Il y a des très beaux textes sur l'idéologie. Il y a d'ailleurs des commandes. D'ailleurs, un homme très intéressant, qui est Jourdan, qui est le directeur de l'Institut français de Berlin à cette époque, celui qui reçoit Sartre et Aron quand ils viennent pour voir ce qui se passe en Allemagne. Et donc, François Poncet va commander à Jourdan un très long rapport sur l'idéologie. Jourdan à l'Human Kampf. Sur l'idéologie. Et donc, la conclusion de François Poncet, basée sur ce rapport, c'est que, on le dit, les Français ne comprennent pas que tout est bien, c'est mythe raciste, tout ce fatras, ils pensent que c'est pas important, que c'est superficiel, mais qu'en fait, ça convainc un certain nombre d'Allemands. Donc, l'importance de l'idéologie, ça m'a beaucoup frappé. Après, la description, il le dit, des masses en mouvement. Alors là, c'est ce que j'ai écrit en introduction, ça ressemble terriblement à ce qu'a écrit Hannah Arendt dans son analyse du totalitarisme en disant il faut empêcher les gens de s'arrêter pour réfléchir. Donc il y a continuellement une émotion qui est provoquée. C'est-à-dire, tous les week-ends, toutes les semaines, il y a un nouvel événement. Soit un pogrom, il le dit très bien, soit une fête nordique, soit le congrès, soit une fête militaire, il le décrit en détail.
Est-ce que vous avez des questions ? Madame.
Je voulais savoir, monsieur, si vous avez lu ce livre « Dans le jardin de la bête ». Bon, alors ça fait froid dans le dos parce que, alors, par rapport à Dodd, qui était angélique, en plus, il avait une feuille de route qui était, parce qu'il paraît que les Allemands avaient une dette énorme, alors il fallait pas trop froisser. Mm-hmm. En plus, les Américains étaient assez antisémites, etc. Enfin, moi, la question que je voudrais vous poser, c'était, j'ai découvert, ça se passe en 1933, hein, qu'il y a des Américains qui étaient dans la rue en train de faire, il s'est trouvé que c'était des journalistes, en train de faire des courses avec leurs femmes, et il y a eu une parade, et ils n'ont pas fait le salut militaire, et ils ont été tabassés, mais quasiment à mort, et il paraît que Hitler avait fait une loi en disant que les étrangers étaient dispensés, en plus il y avait la rivalité avec Rome, etc. Et je voulais savoir s'il y a eu des cas similaire en France, si c'est remonté, et en plus ça remontait à Dodd, mais il avait instruction Roosevelt, enfin vous voyez ce que je veux dire.
Alors le livre donc, dont vous parlez, qui a été traduit, je l'ai lu en anglais, j'ai adoré, je trouvais ça très bien. Tu connais Olivier?
Il est passionnant.
On en avait parlé à Washington.
Déjà. Et voilà, c'est un journaliste. Alors c'est vrai qu'il n'a pas l'approche un peu ennuyeuse qu'ont les historiens. Voilà, c'est comme un roman. Il dispose de documents que moi que j'ai pas, c'est-à-dire des journaux intimes de proches de Dodd, de Case. Moi, j'ai pas le journal intime de François Poncet. Il est pas dans le fond François Poncet non plus. Il y a fond des papiers François Poncet. Il y a des tas d'anecdotes en fait qui sont. Alors, ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'il arrive, Dodd arrive, l'ambassadeur des États-Unis, et il est confronté tout de suite à un problème très pratique. Donc, ce sont ces Américains qui sont dans les rues, qui sont intéressés par les parades nazies, qui ne font pas le salut nazi, et qui sont immédiatement tabassés par les SA. Et donc, problème à sortir de prison, il faut protester, etc. En général, on les exfiltre très, très vite, on prend un billet d'avion pour qu'ils s'en aillent très rapidement. Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu de cas précis. Moi, j'ai vu d'autres cas qui sont, et très, très nombreux, qui sont des Juifs français qui vivent là. Des Juifs un peu français, encore les Alsaciens sont très importants. Il y a M. Manfred Dreyfus, c'est pas de ma famille, mais enfin qui apparaît là, et qui ont des problèmes avec le régime. D'abord, ils font du trafic de devises. Alors, c'est pas du trafic de devises, c'est que tout est bloqué. Donc, ils essayent de sortir leur argent pour préparer leur immigration. C'est compliqué, vous savez, tout ça, j'ai écrit beaucoup là-dessus, sur la loi de la taxe de fuite, etc. Comment partir en emportant un peu de son, de ses biens pour recommencer une nouvelle vie. Et donc, ils sont, la tentation, c'est de mettre un peu voilà, des billets dans une valise et d'essayer de passer la frontière à Strasbourg. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Oui, oui. Donc, non, pour vous répondre, j'ai pas de cas, comme vous l'écrivez. J'ai pas vu, en tout cas, dans ces archives-là, de Français qui font pas le salut et qui se font tabasser. Par contre... Alors, voilà. Par contre, le problème constant de l'ambassade à Berlin et des consulats, ce sont des citoyens français qui soit aident les juifs ou essaient de faire passer, ou alors se retrouvent dans des cas Personenschande, c'est-à-dire de, voilà, ils ont une petite amie, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un flirt ou des relations avec une femme arienne. Et donc emprisonné, procès, etc. Et donc là, l'ambassade, en tant que protège ses nationaux, est obligée régulièrement d'aller demander la clémence et surtout d'obtenir une libération pour que ces personnes puissent être expulsées vers la France. Donc là, j'ai donné quelques cas, mais c'est vrai que la question est très intéressante. J'ai pas la même chose que ce qui est décrit par Larson. Alors, ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient bien aussi avec... Alors, l'ambassadeur britannique, c'était Phib, je crois. Donc, ils sont plutôt d'accord. Ils sont les alliés de la France. Ils se mettent d'accord, par exemple, pour ne pas aller à Nuremberg. Ils sont invités, donc ils ne veulent pas. Ils disent que très longtemps, ils refusent d'aller... L'invitation d'Hitler d'aller au congrès de Nuremberg. C'est le congrès d'un parti politique. Ce n'est pas l'État. Et donc, nous n'avons rien à y faire. Ils envoient des observateurs, mais... Après, ils cèdent, hein, ils y vont à partir de 36. Donc, c'est par contre, on sait qu'ils se voyaient beaucoup, ouais, ils se fréquentaient énormément. Alors, la comparaison avec les rapports de Dodd, de Phib, etc., c'est dans le livre de qui est dirigé par que j'ai cité, qui est dirigé par, hein, qui lui montre que François Poncet n'a pas été le seul à être lucide. Mais c'est lui qui allait quand même le plus loin dans la description du régime. C'est-à-dire que les rapports des Américains et des Anglais sont aussi très intéressants.
S'il vous plaît, Paul Larnaud, juriste, ma question est un peu une incidente, un peu en marge. Vous avez fait plusieurs incidentes relatives à la situation économique de l'Allemagne. Et je veux savoir, non, est-ce que François Poncet, qui était un diplomate, il n'était pas économiste. Est-ce que il est resté en poste entre 31 et 38. Est-ce qu'il s'est penché sur l'époque de la crise économique, de la genèse de celle de 1929, et alors cette période qui m'intéresse? Elle est celle de savoir s'il y a eu une crise économique antérieure ou en Allemagne ou simultanée à celle de New York en 1929. Est-ce qu'il y en a eu une avant ou est-ce qu'elle a succédé à celle de 1929?
Alors, il y a eu naturellement une crise économique majeure en 2021, 2022, 2023. François Poncet, je l'ai dit un peu rapidement, mais je pense qu'il est aussi envoyé à connaissance de l'actualité économique. Il est journaliste économique, hein, lobbyiste. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est envoyé, parce qu'on pense qu'il va pouvoir aider la France à négocier le problème, c'est vraiment la question des réparations, hein, des réparations allemandes de Versailles. Alors, il suit de très près l'économie. Il y a une disproportion du nombre de rapports sur la situation économique très, très, très détaillé. Et donc, j'ai un chapitre, hein, là-dessus, sur l'économie. Il est très bon, très, très bon. Il a fallu attendre les travaux des années 80, voir le livre d'Adam Tooze, là, récent, sur l'économie. Je lis Adam Tooze et je retrouve de façon très précise ce qui est décrit dans les rapports. Pour résumer, il n'est pas dupe du miracle économique nazi. Il n'est pas dupe. Alors que beaucoup de gens sont dupes en France. Et zéro la baisse du chômage, les grands travaux, les autoroutes, il en parle d'ailleurs des autoroutes, la propagande, le développement des provinces de l'Est, de la Prusse, du Mecklenburg, etc. Il n'est pas dupe. Juste, j'avais préparé ça, je vais peut-être juste lire, si tu me permets, deux phrases. Alors, ils ont un directeur de la Dresde. Moi, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup. Il travaille sur les banques, qui vient les voir, il n'est pas cité, donc c'est un des informateurs. Et il dit que voilà, il y a une reprise et qu'on est en 34. Et dans la plupart des entreprises, le chiffre d'affaires accuserait une augmentation de 20, 25 à 30% sur celui de l'an dernier. De même, les achats pour Noël avaient marqué une hausse analogue. Sans doute, la situation est loin d'être normale. Et l'avenir apparaît tout hérissé de difficultés. L'augmentation des achats pouvait s'expliquer par le manque de confiance dans la solidité du marque. Il voyait bien les dangers que pouvait faire courir les demandes, le développement excessif d'un marché intérieur aux possibilités limitées dans un pays qui doit avant tout vivre de ses exportations. Voilà. Donc on a, au lieu d'accepter, voilà, c'est le début de la reprise, 20-25% d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est énorme, c'est une reprise dont on rêverait en France aujourd'hui. Il dit non, voilà, attendez, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a des tas de goulots d'étranglement, en fait, c'est ça le problème de l'économie allemande, qui n'ont été finalement résolus que par la fuite en l'occupation d'une partie de l'Europe et les politiques de préemption nazie. Oui. Jusqu'en 29, non. Non. On a une période de stabilisation du régime. Ah oui, c'est tout à fait lié, mais elle ne commence pas en 29, elle arrive avec quelques mois de retard. On dit qu'elle a commencé en France en 31, maintenant les historiens disent que c'est un peu plus tôt, puisqu'il y a une déflation dès 1930, mais la crise de 29, elle est absolument massive, d'ailleurs elle est décrite dans les rapports, on a un tiers de chômage.
30% de chômage.
30% de chômage.
Une autre question ?
Oui, j'ai une question sur le... Sur la, comment est-ce qu'il qualifie le régime ? Parce que vous avez mentionné, Monsieur Guez, les régimes, les autres régimes totalitaires à l'époque, donc le fascisme italien et le bolchevisme soviétique. Est-ce qu'il a connaissance de ces régimes ? Est-ce qu'il est plutôt vraiment le littéraire qui résonne différemment ? Ou est-ce qu'il y a vraiment, oui, une analyse un peu, on dirait politiste aussi ? Et encore lié à ça, Sébastien Hafner, un peu la vision que jusqu'en, je ne sais plus quelle date exactement, mais il dit qu'il y a une phase normale, entre guillemets, du régime nazi, c'est-à-dire où c'est plutôt encore un régime, une dictature classique. Pensez, à partir de quand, est-ce qu'il y a un moment précis où il dit, oui, à partir de maintenant, c'est un autre régime, c'est une nouvelle qualité? Donc totalitaire ou je ne sais pas.
Alors merci de la question, c'est une très bonne question sur la qualification du régime. Non, il n'utilise pas le terme totalitaire, hein, ça c'est, même si le terme existe. Hein. Ah pardon, mais le terme existe, hein, on sait que dans l'histoire, vers les années 30, on commence à l'utiliser, mais lui il n'utilise pas, il parle de dictature, et il a achevé, alors il y a un très beau rapport, il la voit achever en avril ou mai 33. Il dit voilà, c'est fini. Les très beaux rapports, il dit les catholiques ont perdu le goût du martyr. Bon, ben, il est souvent ironique. Les corps intermédiaires sont dépecés. Voilà. Il dit c'est fini. Et il dit et Hitler a manœuvré formidablement.
C'est ce qu'il dit. Et il dit qu'il n'y a ni héros ni martyrs dans la société allemande, que personne ne bouge, en fait. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas, personne ne bouge.
Ça, et voilà, il est fasciné. Alors, pas la prise de pouvoir. Là, il n'est pas très bon sur les négociations qui font qu'en 1933, j'ai regardé hein, ça, Hitler est nommé chancelier. Et sur ce qu'il y a juste après, là, les rapports sont formidables. Vraiment, Hitler a manœuvré magnifiquement. Et il a circonscrit tous ses adversaires, qui sont en général donc les Dutch National, la droite nationaliste, les communistes. Et alors il parle, il va plus loin, il s'intéresse, il dit des choses intéressantes. Il dit voilà, les corps intermédiaires, les gouvernements régionaux, alors, pas les Länder, mais dans les provinces à l'époque, qui sont où il y avait une grande décentralisation encore jusque-là. Il dit voilà, c'est, là aussi c'est fini, c'est nazifié. Et il dit les chambres de commerce, les syndicats patronaux. On a des listes énormes qui fait. Voilà. Sur la qualification de régime, on voit quand même qu'il décrit un serment de vie, si j'ose dire, par exemple sur la presse. La presse est encore un peu une petite marge de manœuvre en 1933, en 1934. À partir de 1935, c'est fini. Mais bon, il ne change pas la qualification du régime. Il parle du dictateur, du tyran. Ouais. Non, il ne compare pas avec l'Italie. Et c'est vraiment pointé quelque chose. Il n'est pas politiste. Quelqu'un qui est nourri d'histoire, de littérature et d'économie. Il n'est pas politiste, mais ses analyses qui ne sont pas... Voilà, il n'y a pas de vocabulaire de politiste. Il s'en approche sur la mobilisation des foules. Mais il n'a pas le vocabulaire.
Madame. Pardon.
Je voulais juste savoir si vous pourriez répéter le titre du livre de Bauer, mais en français, parce que je ne connais pas assez bien l'allemand. En fait, pour...
De Bauer.
De Bauer, pardon.
Oui, mais il est en allemand, il n'est pas...
Ah, vous savez le traduire en français ou le simplifier?
Pour l'intermédiaire, je vous envoie la référence par email, c'est plus simple. Hein, je vous donnerai ma carte.
C'est un long titre.
Frame de Blick. Bon. Oui, mais sinon, je vous envoie volontiers, je vous donne votre email et je vous enverrai la référence. Chez
Monsieur, et après madame, et après.
Oui, Katoar, je suis un ancien diplomate allemand, mais qui a travaillé aussi pendant un certain temps. Et c'est là-dessus ma question. Est-ce que vous avez pu comparer les rapports de François Poncet avec d'autres rapports des voyageurs en Allemagne, de résidents français, des correspondants français en Allemagne, et avec les commentaires des ambassadeurs de France en Italie, aux États-Unis, à Moscou, etc. Donc moi, quand j'étais au Quai d'Orsay, à une période où ce n'était pas encore le terrain, simplement, il y avait un ping-pong continuel, un rapport venait de Moscou et tout de suite Washington répondait et Berlin ou Bonn, Londres, etc. C'était une affaire continue. Et là, est-ce que vous avez pu comparer ça un peu si François Poncet était plus lucide ou autre? Une deuxième chose où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est le rôle de François Poncet. Il a joué un rôle très très important, bien au-delà d'un représentant diplomatique, qu'il soit au commissaire ou tout ce que vous voulez dire, il était ambassadeur donc, à Bonn, et il avait l'accès direct à Adenauer, il a préparé tout ce qui était l'Europe, l'OTAN, etc. Il jouait un rôle bien au-delà, parce que justement c'était la 4e République, et je voulais savoir quand vous avez dit que ce n'était plus à la hauteur de François Poncet. Ce n'était du point de vue littéraire ou du point de vue politique ou autre. Ce qu'il a fait ensuite, après sa retraite, c'était autre chose.
Alors, rapidement, donc, la comparaison des rapports d'ambassadeurs à Berlin dans les années 30 est faite dans le livre de Bauer. Donc ça, je vous conseille d'aller voir le livre qui est très, très intéressant. Comparaison avec les autres régimes politiques, non, je ne le vois pas, mais dans les télégrammes, dans le matériau que j'ai utilisé. Sur l'après-guerre, j'ai peut-être pas été très clair, mais en fait, j'ai jamais dit que François Poncet n'a eu un rôle mineur dans la relation franco-allemande après la guerre. Au contraire, je suis tout à fait conscient qu'il a été un moteur. il a eu un rôle très très important dans la réconciliation franco-allemande, dans la Westintegration. D'ailleurs, les rapports de François Poncet comme haut-commissaire sont publiés. Hein. Vous savez, il y a, enfin, pas complètement, mais enfin, il y a une très belle édition de Manfred Bock, je crois, une très belle édition déjà ancienne de ces rapports. Voilà, je dirais, le pendant, c'est ça, hein, ces rapports. Mais on a les rapports du haut-commissaire. Non, il a joué un rôle tout à fait fondamental. J'ai beaucoup, beaucoup lu ces rapports, mais pour autre chose. Là, pour la diplomatie des réparations, hein, c'est mon livre, L'impossible réparation. Vous verrez que je cite très, très, très longuement François Poncet. Là, ce qui est moins bon, c'est qu'en citant l'introduction de 64 au livre de Trevor Roper, et sur ce qu'il a écrit sur l'Allemagne dans les années 60. Je ne sais pas si vous les avez lus, tous ces, j'ai une petite liste là, tous ces... Oui. Non, mais je parle de ces livres, je ne parle pas des rapports. Je parle de ces livres sur l'Allemagne. C'était un publiciste, voilà, qui régulièrement publiait. Alors, je n'ai pas tout, mais... Et là, je trouve qu'il est moins bon, vraiment. Il est, en tout cas, en tant que publiciste.
Il est très âgé aussi, déjà, quand même.
Il est très âgé, voilà, il est... Moi, ça me tombe des mains, quoi. Sur l'Allemagne, début des années 60, il est moins bon. Alors, sur le ping-pong, alors, mais merci d'avoir posé la question. Oui, j'ai aussi eu travaillé avec un petit chargé de mission au Quai d'Orsay. C'est vrai que ce qui est frappant aujourd'hui, par la voie électronique, c'est qu'on a voilà, ces rapports, et surtout, les rapports sont diffusés à de très nombreux destinataires. Il y a toute une stratégie de diffusion du rapport pour essayer d'attirer l'attention. C'est une stratégie de carrière, hein, pour montrer qu'on est là. Et on voit très bien que tel rapport, souvent d'ailleurs assez anodin, va être envoyé à 15 postes diplomatiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est très, très facile. À l'époque, ça l'était moins, même s'il y avait déjà des envois par télégramme. Pas tous, pas les rapports passaient par la valise. Et les destinataires, c'était toujours deux, voire trois. C'était toujours direction Europe. Dès que ça parlait de la culture, c'était le fameux service des œuvres, hein, l'ancêtre du réseau, qui était dirigé à l'époque par Jean Marx, qui était le seul d'ailleurs diplomate de haut rang juif en France. Il n'y en avait pas en Allemagne, hein, des diplomates de haut rang. C'était impossible pour un juif de faire carrière dans la diplomatie, sauf s'il était converti. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Hein, et parfois, le rapport était aussi envoyé à la représentation française, à la Société des Nations. C'est tout. Donc, on n'a pas ce jeu complexe que vous décrivez de ping-pong, de retour. Mais c'est lié aux moyens techniques.
Madame.
Oui. Alors, vous avez une question à vous poser, une question qui me travaille depuis un certain temps, mais sur laquelle je n'ai jamais pu lire quelque chose. C'est-à-dire, j'ai grandi dans cette Allemagne de l'après-guerre et dans un immeuble où habitaient que des cadres de la BASF, si vous voulez. Et on était 6 familles. Après, il y a un autre immeuble avec 6 familles. Et dans ces 6 familles, moi, j'ai un vague souvenir, enfant, il y avait 2 familles qui ont été par un procès de dénazification, les hommes étaient dans les SA, et ils ont dû travailler comme ouvriers, faire les 3-8, c'était les 3-12 à la BASF, à la place du travail 8 heures par jour, comme des cadres supérieurs, si vous voulez. Et je me suis toujours demandé ils étaient dans la SA, et c'était des braves gens, des gens médiocres, pas de personnalité, alors que dans l'immeuble, il y en avait 2 autres qui jouaient du piano et qui avaient d'autres intérêts que... Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Et alors, l'un venait de Dresde et l'autre de Tübingen. Et ils avaient en commun qu'ils avaient fait leurs études dans les corporations étudiantines. Et je me suis toujours dit, ces corporations étudiantines ont été quand même une vie en groupe qui a dû préparer formidablement les SA, SS, etc. Est-ce qu'il existe des études qui ont étudié les relations entre ces Burschenschaften, qui en Allemagne, depuis le milieu du 19e siècle, jouent un grand rôle, qui au début étaient peut-être modernes, mais après, bon, mais je veux dire, qui ont préparé une espèce de groupe de ce... ça m'avait beaucoup frappé, si vous voulez, parce que c'était pas du tout des gens fanatiques et machin, c'était des braves gens plutôt médiocres, si vous voulez. Oui, et leur médiocrité.
Vous savez pas ce qu'ils ont fait. Il faudrait voir leur dossier. Peut-être non, qu'ils ont été sur le front de l'Est.
Leur médiocrité a fait que ils ont adhéré à la SA pour être quelqu'un pendant cette période. Et ils ont été uniquement dénazifiés pour la SA, avoir été membre de la SA.
Ça, je ne sais pas, il faudrait voir. Alors, peut-être qu'ils ont. Ça, vous ça, êtes sûr, vous n'avez pas vu les dossiers dénazifiés.
Mais qui a un rapport avec leurs études dans ces corporations qui, en Allemagne, jouent un rôle énorme.
Alors, les Burschenschaften.
Aujourd'hui, quand vous êtes dans les petites villes, à Fribourg, à Göttingen, etc., ils jouent encore un grand rôle.
Oui, hein. Alors elles sont beaucoup moins nationalistes qu'elles ne l'ont été. La Burschenschaft Alsacia, qui a été créée à l'époque du Reichsland à l'université de Strasbourg, existe toujours. Elle est à l'université de Francfort et on a des continuités. Ça a été un bouillon de culture du nazisme germanique. Comme vous l'avez dit, oui, ça a préparé. Non, mais c'était nationaliste, pas d'étudiants juifs, les balafres, etc.
Oui, et
on a quelques rapports magnifiques de François Poncet là-dessus. Hein.
Et marché, ah oui, là-dessus.
Ouais, j'ai dû en mettre un sur les étudiants, je ne me souviens plus, mais sinon, il est conscient que c'est aussi dans les facs que ça se passe.
Parce que ça ne formait pas les individualistes, ça, c'est sûr. Non. C'est la vie en groupe.
Sur l'épuration allemande et sur la difficile épuration de la société allemande, on a quand même beaucoup de recherches maintenant.
Non, mais ça je vous promets. Les relations entre les Burschenschaften et les membres des partis nazis fanatiques, parce que c'est des gens qui étaient qui n'avaient pas aucun individualisme intellectuel, si vous voulez, et qui se trouvaient une identité à travers le groupe.
Mais les Burschenschaften, ce n'étaient pas les paumés. C'était souvent une élite, c'était des aristocrates,
oui,
c'était.
Oui,
il y en avait plusieurs, mais c'était.
Là, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des cadres. Hein, oui. Mais c'est pas des individus. C'est des gens qui lisaient beaucoup de livres, ou qui étaient des peintres, ou des artistes, ou des musiciens. Dans le même immeuble, les deux personnes. Il y avait deux pianistes, mais ceux-là, ils n'étaient pas dans les SA, etc. Oui. Ils avaient de quoi occuper leur temps libre autrement. Donc, c'était des gens. Moyens, des braves gens, mais pas méchants. Mais je me demandais toujours, est-ce qu'on a fait des statistiques sur les Burschenschaften? Est-ce que les membres des Burschenschaften étaient systématiquement dans la S?
À ma connaissance, on n'a pas d'études, mais on sait que ça a été une préparation du nationalisme étudiant.
Bien. On va s'arrêter là. Merci à tous, merci à Jean-Marc surtout, et à la prochaine. Merci.